21h passée de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous, voici Wagon Livre, votre émission littéraire sur votre radio locale. Alors à quelques jours des commémorations de l'armistice 1918, il nous a semblé pertinent de nous arrêter localement sur l'histoire de cette grande guerre, cette grande tourmente de cette première guerre mondiale. Et ce soir, on a un ancrage local, puisqu'on va s'intéresser beaucoup à Avallon et au pays avallonnais. Et j'ai deux invités qui ont la gentillesse d'être ce soir devant nos micros. Tout d'abord, Marie-Laure Lasfernias. Bonsoir Marie-Laure.
Bonsoir Yannick.
Alors Marie-Laure Lasfernias, il faut expliquer que vous êtes l'arrière-petite-fille de Mathieu Tamet, dont vous avez retrouvé les journaux intimes, que vous avez retranscrits, que vous avez analysés. Et effectivement, votre arrière-grand-père était maire d'Avallon de 1912 à 1919. Vous êtes venu accompagné d'un historien passionné d'histoire, Jean-Pierre Perriot, bonsoir.
Oui, bonsoir Yannick.
Alors Jean-Pierre Perriot, vous avez, aux côtés de Marie-Laure, apporté un regard historique, un regard d'historien sur ce journal intime qui livre un très grand nombre d'informations. Alors je vais peut-être, puisque nous en sommes avec vous, vous demandez de nous présenter Mathieu Tamet.
Oui, alors Mathieu Tamet, donc, il a été maire d'Avallon de 1912 à 1919, c'est-à-dire ça fait à peu près un siècle. Et a priori, on n'aurait jamais imaginé qu'il devienne maire d'Avallon, parce qu'il a des parents qui sont extraordinairement d'un milieu modeste, des passementiers, alors aujourd'hui on ne sait pas trop ce que c'est, c'est-à-dire ce sont des personnes qui rajoutaient des décorations sous forme de fil ou de broderie ou de choses de ce type aux habits, donc des gens qui gagnaient très très peu d'argent. Alors il fait des études très limitées, comme souvent à l'époque, mais enfin il va au collège quand même. Et puis il s'engage dans l'armée, moyen d'ascension sociale courant au 19e siècle et même encore aujourd'hui. Et alors il s'engage vraiment au grade le plus bas, hein. Il est simple soldat. Et puis il monte caporal, adjudant, et finalement, au bout d'une douzaine d'années, il va devenir sous-lieutenant. Donc en fait, ça y est, il est officier. Mais là, pourquoi, on ne sait pas très bien, il abandonne l'armée, et sa carrière va bifurquer, il se dirige vers l'administration. Et là, à nouveau, il recommence en bas de l'échelle, il passe les concours d'administration, mais il démarre comme commis. Commis, c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, hein. Ça voulait donc dire le plus bas à grade, le plus modeste. Et puis, bah, certainement, il doit être très efficace, il doit montrer des qualités de gestion, et il monte, et finalement, j'arrive à Avallon, 1896, il va devenir le directeur de l'agence des enfants assistés de la Seine à Avallon. Alors, autre époque, hein. Donc à l'époque, il y a énormément d'enfants abandonnés dans la région parisienne. Il y a un département qui s'appelle le département de la Seine, on dirait aujourd'hui en gros Paris, hein. C'était un peu plus étendu que Paris. Et donc qui gère l'arrivée à Avallon et le placement, et ensuite qui vérifie que ça se passe bien dans les familles, eh bien c'est Mathieu Tamet. Donc c'est un poste délicat, c'est un poste important, c'est un poste qui est très bien rémunéré. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'un haut fonctionnaire, mais c'est un poste où il faut tout le temps se déplacer dans les campagnes pour aller voir ce qui se passe, et Mathieu Tamet, c'est un des meilleurs connaisseurs de la vie sociale, de la vie locale, de la vie régionale à l'époque. Alors ça, c'est donc sa deuxième phase. Hein. Deuxième phase, en fait, il pourrait mener une vie tranquille jusqu'à la retraite, donc il a à ce moment-là 40-45 ans. Et puis arrivent les élections de 1912. Il y a des élections municipales à Avallon. Et Mathieu Tamet, bon, sans enthousiasme, il se met sur la liste. Et puis alors, il se trouve qu'il est deuxième élu sur la liste, qui est la liste de gauche. Il y a deux listes, hein, une à droite, une à gauche, exemple français classique. Deuxième. Et puis le premier sur la liste, il se défile. Et donc Mathieu Tamet, il est obligé d'y aller. Sans enthousiasme, c'est par devoir, et dans son journal, il dit « c'est un grand sacrifice ». C'est un grand sacrifice. Alors pourquoi est-ce qu'il est arrivé deuxième quand même? Parce que c'est pas uniquement parce qu'il était directeur des enfants assistés de la Seine. C'est quelqu'un qui est extraordinairement... Moi j'ai trouvé, c'est impressionnant quand même, pour un fonctionnaire d'être aussi engagé dans la vie sociale. Alors il était président d'une association qui regroupait des boulangers, des meuniers de la région pour avoir du pain meilleur marché, donc d'une coopérative, hein, c'est la grande époque des coopératives. Il était membre d'une association qui s'occupait d'anciens prisonniers, donc des gens qui avaient été dans les prisons, bon, ce qui n'est pas encore si banal pour un haut fonctionnaire. Et puis il était vice-président de la Ligue des droits de l'homme, donc c'est une espèce de monsieur orchestre qui a ses entrées un petit peu partout et qui s'investit personnellement sur le terrain. En fait, c'est certainement pour ça qu'il a été aussi bien placé dans les élections. Donc c'est sa liste qui gagne, c'est la liste de gauche, et donc il est élu maire en 1912. Voilà. Alors quand même un petit détail pratique, on ne se bat pas à l'époque pour être maire. Pour une raison très simple, c'est que le maire n'est pas payé. Il ne touche pas un centime. Bon. Et donc il semble quand même que, si on regarde bien le journal, il y a des moments où Mathieu Tamet fait comprendre qu'il a demandé à ses amis de faire une petite caisse pour quand même qu'au minimum il soit défrayé de ses dépenses liées à la fonction de maire. Donc le voilà maire. On est en 1912, on n'est pas encore à la guerre de 1914.
Alors Marie-Laure Lasvernias, comment ce journal intime de cet arrière-grand-père est tombé entre vos mains ?
Par hasard, bien sûr. En gros, Mathieu Tamet a cessé d'écrire le 12 novembre 1934. Il est mort en octobre 1936. Et ce journal s'est retrouvé sous des piles de photos, de poèmes et de correspondances. Et avec les décès, les héritages, etc., il s'est retrouvé au milieu du salon de mon frère dans les années 90. Un moment où j'éprouvais le besoin de comprendre l'histoire de la famille de ma mère, Mathieu Tamet, mon arrière-grand-père maternel, j'ai demandé à mon frère d'apporter les documents qu'il avait en sa possession pour qu'on puisse les confronter avec ceux que j'avais moi-même et qu'on essaye de mieux comprendre d'où venait notre mère et ses ascendants. Et donc, mon frère a apporté tout un tas de papiers. On a surtout regardé les lettres, les photos, etc. Et quand il est reparti, il m'a dit « Tu verras, il y a une caisse, là, c'est marqué qui est, tome 4 à 8 ». J'ai l'impression que c'est un journal, regarde ce que c'est. Et donc on était en 98, je l'ai ouvert, il y avait 37 cahiers, 5000 pages, que personne visiblement n'avait touché depuis 1934. Donc je l'ai ouvert et j'ai vu que sur la couverture il y avait marqué Mathieu Tamet, mon frère ne savait même pas qui c'était. Moi je me rappelais vaguement que c'était mon arrière-grand-père et j'ai commencé pour mon... disons que ça m'a embarqué dans une aventure d'une dizaine d'années dans la lecture de ce journal et toutes les pistes que j'ai soulevées et les croisements, les rencontres, etc. Et l'aventure, bien sûr, n'est pas terminée. J'ai l'impression que ça, c'était quand même un tournant pour mes occupations personnelles, en tout cas.
Ça a été facile, cette retranscription du journal ? La graphie est aisée ? L'orthographe est excellente ?
Mathieu Tamet essaye de ne pas faire de faute d'orthographe. Il se faisait d'ailleurs corriger certains articles, donc d'articles publiés, par son gendre, Hippolyte Luc, qui était agrégé de philosophie. Et dans son journal, il fait peu de fautes d'orthographe. Les premiers, ils commencent en 1910, donc on s'habitue. C'est vrai qu'il y a par moments certains mots qu'il faut relire plusieurs fois. Et puis après, l'écriture évolue au fil des 24 années du journal, mais moi je suis rentrée dedans, donc je lis de plus en plus facilement au fur et à mesure que les années passent.
Donc vous avez l'impression de le connaître parfaitement, cet arrière-grand-père, sans l'avoir bien sûr jamais rencontré.
C'est vrai que c'est une impression bizarre, parce que j'ai l'impression d'être dans sa tête. C'était un journal intime, donc il évoque vraiment des pensées qu'il ne communique à personne, surtout pas à sa femme d'ailleurs, mais même pas à ses filles. Et en plus, j'ai refait à vélo les tournées qu'il faisait en voiture à cheval pour voir si les enfants de l'assistance publique étaient bien traités dans tout l'Avalonnais. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'être dans ses pas tout le temps et de voir des fantômes, quoi. Je me promène vers Marmot, Santigny, Vigne, etc. Je vois Mathieu Tamet j'entends Mathieu Tamet râler parce que la chaussée, la voirie vraiment de Lyon, il pourrait faire des efforts. Et en Côte d'Or, c'est encore pire parce qu'il passe par moments vers la Côte d'Or. Enfin bon, je l'entends.
On va marquer un premier intermède musical. Je voudrais juste simplement signaler que Mathieu Tamet donc, repose au cimetière d'Avallon, hein, où sa tombe est très facilement identifiable, puisqu'en fait, il se trouve en face du carré militaire d'Avallon. Voilà. On se retrouve d'ici quelques minutes avec Marie-Laure Lasvergnas et Jean-Pierre Perriot pour parler de la Grande Guerre à Avallon, la grande tourmente de 1914 jusqu'à 1918.
Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas, t'aimes tant te faire du mal, l'amour c'est comme ça. Tiens qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles, si la nuit tu es seul. Peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Ce fan, tout tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis des supplices, puis on se lasse.
Être maire en 1914, c'est la situation dans laquelle se trouve Mathieu Tamet. C'était votre arrière-grand-père, Marie-Laure Lasvergnas. Alors, comment se traduisent dans son journal les dangers qui menacent l'Europe, les imbroglios diplomatiques, les volontés impérialistes de chaque empire colonial, ou Jean-Pierre Perriot, ou Marie-Laure Jean-Pierre.
Oui, alors, quelques mots. Et donc, alors, c'est vraiment passionnant de voir comment les contemporains ont vécu les choses. C'est-à-dire qu'ils sont très, très inquiets sur le danger de guerre. Mais alors, ils la voient venir pas comme elle arrivera, ni d'où elle arrivera. Alors pour eux, la grande hantise, ce sont les tensions coloniales. Hein, c'est la grande époque où la France s'installe au Maroc, les Allemands sont dans pas mal de coins d'Afrique, et il y a eu des crises majeures. Mais en fait, ces crises majeures, finalement, n'ont pas abouti à la guerre. Et puis, deuxième risque, c'était les Turcs, qui ont fait plusieurs guerres contre les peuples des Balkans. On passe sur les détails. Et là, les contemporains étaient vraiment extrêmement angoissés. Mais ça n'a pas abouti à la guerre. Alors quand même, la guerre, Mathieu Tamet, en tant que maire d'Avallon, il la voit venir. Il la voit venir parce que, par exemple, quand il est en vacances, alors quand même, on part en vacances, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Metz, donc il passe la frontière allemande, puisqu'à l'époque, Metz est allemande, l'Alsace-Lorraine est allemande, et il va voir un peu à quoi ressemblent les soldats allemands. Bon, alors après, ses commentaires sont un peu du style naïf. Ils sont grands, ils mangent trop de soupe, ils sont trop gros. Bon. Mais quand même, il est impressionné par la tenue de l'armée allemande. Et puis, deuxième exemple, cette fois-ci, Mathieu Tamé est en vacances du côté français, du côté des Vosges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le général qui commande le secteur et lui demande à visiter un fort pour voir un peu comment... il y avait toute une série de forts, hein. C'était pas les Maginots, mais ça précédait, c'était avant la Première Guerre mondiale. Et alors, il visite ce fort, et puis, il fait un bilan, alors cette fois-ci vraiment de militaire, puisque c'est un ancien militaire. Hein. Bon. Donc, ce maire d'Avallon, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les questions militaires, et quand la guerre va arriver, bah, il est comme tout le monde, hein. Il est surpris par la déclaration de guerre, mais on réalise très bien que toute une série de choses ont été mises en place. Alors, par exemple, il est prévenu le jour le plus important à 4h du matin par le commissaire de police d'Avallon. Les affiches de mobilisation sont prêtes. Les sociétés patriotiques ont chauffé la population depuis déjà un certain temps. Donc la mobilisation semble se faire de façon extrêmement efficace, coordonnée, tranquille. Un peu à l'image du maire de l'époque, hein, Mathieu Tamé, qui est un homme solide et qui ne perd pas son sang-froid.
Mais on le sent plutôt belliciste ?
Non, alors ça c'est une des choses étonnantes dans le journal, c'est que si on ne savait pas qu'il a été militaire, eh bien on n'imaginerait pas forcément qu'il était dans ce secteur d'activité avant d'être maire d'Avallon. Hein. Donc belliciste, nationaliste, il est nationaliste comme tout le monde à l'époque, mais pas plus que la moyenne. Il a les idées de tout le monde, alors ça serait un peu une faiblesse, c'est qu'il n'a pas d'idée originale au point de vue politique, ce qui lui permet d'être un maire efficace sans doute, mais bon voilà.
Marie-Laure Lasvernias, sur l'ambiance à Avallon...
Oui, moi je voulais lire quelques passages du journal de Mathieu Tamé qui décrit la montée de l'angoisse devant la perspective de la guerre. Comme. Mais vraiment quelques jours avant le déclenchement. Le 28 juillet, il écrit « Dans les campagnes, les gens sont désolés du mauvais temps », ça c'est sa grande préoccupation en général, « mais et plus encore de la perspective de guerre qui semble s'accentuer ». Nous n'aurons personne pour rentrer nos pauvres récoltes et ce sera la misère. Donc, ce qui est vu au départ, c'est les difficultés agricoles. Et on le retrouve assez souvent où, à un moment, Avallon accueille beaucoup de réfugiés et quand les réfugiés partent, ils partent juste au moment des récoltes. Et ça, c'est une catastrophe. Donc, il y a cette préoccupation de la vie agricole. Donc, nous n'aurons personne pour rentrer nos pauvres récoltes et ce sera la misère, me disait une pauvre femme qui a un fils sous les drapeaux et un autre qui partira comme réserviste. Cette note est très juste. En passant à Guyon, il apprend que la Serbie est envahie. Ce soir, nous sommes sortis entre 8h et 9h30. Les rues étaient pleines de monde, poussées dehors par l'angoisse et aussi par l'espoir d'apprendre des nouvelles rassurantes et aussi pour causer de la terrible affaire. La guerre n'a pas d'amateurs, tout le monde désire la paix, mais la voudrait assurée et non subordonnée aux caprices d'un monarque. Le lendemain 29 juillet, le commerce est dans un marasme complet, rien ne va. Chacun cache son or et son argent, on ne trouve plus de monnaie de nulle part, tout le monde redoute la guerre. Et il dira plus tard que les pénuries sont accentuées dès le début parce que les gens ont caché aussi leurs réserves. Le lendemain, c'est pareil, tout le monde est dans la rue. Et le 1er août, le temps est beau, mais les nouvelles sont très mauvaises après les journaux du matin. La mobilisation est proche, les journaux de 2h nous en apportent de plus mauvaises encore. On ne négocie plus, toute l'Europe est en armes, même la Suisse et le Portugal. Et à 4h15, le facteur du télégraphe m'apporte l'ordre de mobilisation générale. Je pars de suite à l'hôtel de ville où rapidement je réunis une partie du conseil municipal et après c'est ce que disait Jean-Pierre, les affiches sont prêtes, tout le monde, tout est organisé d'avance. Quoi. Et le lendemain, 2 août, on apprend la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, donc tout le monde commence à aller voir les gens partir par les trains, etc. Enfin, il y a vraiment toute la population d'Avallon... et dans la rue et accompagne le mouvement.
Et dans la famille Tamé, alors, il n'y a pas d'homme qui va devoir partir à la guerre.
Si, puisque Mathieu Tamé, qui avait eu 3 filles, il y en a une qui est déjà morte à ce moment-là, a donné la main de sa fille aînée à un enfant assisté, qui est en âge de partir sous les drapeaux, Hippolyte Luc. Donc Hippolyte fera... toute la guerre et c'est assez intéressant parce que Mathieu Tamé note évidemment le contenu des lettres d'Hippolyte envoyées du front et aussi ce que Hippolyte raconte quand il passe par Avallon parce que Dieu merci il est blessé plusieurs fois, il se retrouve hospitalisé à la Croix-Rouge, etc. Donc il peut parler de l'ambiance au front et parler aussi du moral des troupes d'ailleurs de temps en temps. Donc il y a des informations moins censurées sans doute que les informations officielles qui figurent dans le journal de Mathieu Tamet.
Il y a aussi les premiers morts de la guerre, alors c'est septembre 1914. Je voudrais juste rappeler quand même un chiffre, c'est que sur 70 millions d'hommes ayant porté l'uniforme durant 4 ans, hein, on considère aujourd'hui que la guerre de 14-18 a fait 10 millions de morts. Pour Lyon, c'est 10 024 morts, soit 3,3% de la population du département de Lyon. Et l'arrondissement le plus touché, c'est celui d'Auxerre, avec 3 500 morts, suivi par celui de Joigny, Jean-Pierre Pagnot.
Oui, il est certain que les pertes vont être absolument effroyables. Alors, tout le monde est parti avec l'idée que la guerre serait courte. Idée que reprend Mathieu Tamet dans son journal. Il dit « ça va coûter des fortunes, ça ne peut pas durer très longtemps ». Et alors avec cette idée-là, les militaires, ils sont partisans de l'attaque à outrance. Et donc on a un nombre de morts dans les premières semaines qui est tout à fait comparable à celui qu'on aura à Verdun. On en parle moins souvent, mais ça a été quelque chose d'épouvantable. 1915, même chose, lorsque le général en chef français dit « je les grignote » en parlant des Allemands, c'est gagner quelques kilomètres pour des centaines de milliers de morts. Donc au total, les chiffres effectivement sont très bien connus. À noter que tout le monde peut aller sur Internet et avoir la liste complète des soldats de la Première Guerre mondiale. C'est souvent passionnant et c'est assez facile d'accès.
Marie-Laure Lasvernia, sur les premiers morts, premiers soldats avalonnés tués, alors il y a les obsèques du caporal Lallet, le 10 septembre 1914.
Oui, alors il n'est pas avalonné, le caporal Lallet, mais il a été soigné, on a essayé de le soigner à l'hôpital de la Croix-Rouge. À Avalon, voilà, mais disons que ça n'est pas un Avalonnais décédé. Et c'est vraiment la prise de conscience, je pense, par la population avalonaise de ce que représente la guerre. Et Avalon fait au caporal Lallet des obsèques très très impressionnantes. On peut lire. Je retrouve ma page.
Alors ce caporal Lallet, du 50e de ligne, il a 24 ans, il a été blessé à la moelle épinière, et effectivement c'est le premier mort dans un hôpital d'Avalon, et la revue de Lyon donc rend compte des obsèques du caporal Lallet dans un article daté du 11 septembre 1914.
Les obsèques du caporal Lallet. La population d'Avalon a fait au caporal Lallet du 50e de ligne, mort des suites de ses blessures à l'hôpital de la Croix-Rouge, des obsèques dignes de son héroïsme. Dès 8h du matin, une foule immense se pressait aux abords de l'hôpital. Peu après arrivaient les gardes civils, les sapeurs-pompiers, les gymnastes de l'Union Avalonnaise et la jeune garde, les anciens combattants de 1870-71 et les vétérans des armées de terre et de mer. Les gymnastes, les pompiers et les vétérans avaient avec eux leurs drapeaux largement cravatés de deuil. Quand le cercueil de Lallet, recouvert d'un drapeau tricolore, est sorti de l'hôpital, porté à bras par les brancardiers de la Croix-Rouge et conduit par le clergé de Saint-Lazare, toutes les têtes se sont découvertes, tandis que tous les yeux se remplissaient de pleurs. Le cortège s'est formé aussitôt, précédé des tambours et clairons des sociétés de gymnastique et encadré par les gendarmes et les jeunes gens des deux sociétés patriotiques qui portaient les innombrables bouquets offerts par les habitants de la ville. Le deuil était conduit par M. Lallet, l'infortuné père du défunt, par M. le sous-préfet Gapet, par M. le maire d'Avalon, c'est-à-dire Mathieu Tamet, bien sûr, je me le rappelle, par M. Goussard, président du tribunal, et par Mme Perrin, présidente du comité local de la Croix-Rouge. Etc. Enfin, je vous passe les participants. Dans l'assistance qu'on pouvait évaluer à près de 2000 personnes, on remarquait tous les fonctionnaires de la ville et les notabilités locales. À l'issue de la cérémonie religieuse, le cortège s'est reformé. Sur tout le parcours, les tambours des sociétés de gymnastique ont exécuté des roulements funèbres. Au champ de repos, après les dernières prières, les clairons, au milieu d'une émotion poignante, ont sonné au drapeau et au chant. Les drapeaux se sont inclinés. Les drapeaux se sont inclinés sur le cercueil. Puis Monsieur le maire a pris la parole pour saluer au nom de la ville le vaillant soldat tombé glorieusement en défendant son pays. Et il y a un poème de Lucien Duc aussi, Mort pour la patrie, qui a été lu. Vraiment, il y a eu une manifestation de tout le monde, je pense, une union sacrée autour de ce décès de ce pauvre caporal Lallet, qui était impressionnante.
Et qui a rassemblé des milliers de personnes.
Oui, hein, puisqu'on parle de 2000 personnes. Oui.
Effectivement, un événement très impressionnant, très marquant pour la population locale.
Et il y aura moins de monde au décès suivant, forcément.
Alors effectivement, aussi dans le journal, on voit à chaque Toussaint, à chaque 1er novembre 1914, 1915, etc., etc., il y a les commémorations qui sont toujours de plus en plus terribles, puisque le bilan humain s'alourdit et touche de plus en plus de familles. On marque un nouveau temps de pause musicale et on se retrouve avec vous dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Être maire en 1914, c'est le titre de l'ouvrage de Marie-Laure Lasvergnas, avec une présentation de Jean-Pierre Perriot, qui est historien. Je rappelle que Jean-Pierre Perriot, qui est avec nous ce soir, est titulaire d'un DES d'histoire de la Sorbonne, qu'il a enseigné en France, mais aussi en Éthiopie et au Mali. Et Marie-Laure Lasvergnas est donc l'arrière-petite-fille de Mathieu Tamet, qui fut maire d'Avallon de 1912 jusqu'à 1919. On a parlé, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de ce journal qui est quand même très très riche et qui présente une vraie, j'allais dire, une vraie radiographie de cette France de la Grande Guerre, Marie-Laure Lasvergnas. c'est aussi les difficultés pour vivre, pour s'alimenter, les pénuries et surtout les réquisitions qui sont organisées par les préfets et relayées par les maires dans chaque village et ville.
Il est vrai qu'Avallon, comme toutes les autres villes françaises, est touchée par les réquisitions qui sont instituées dans chaque département par un comité départemental du ravitaillement, présidé par le préfet, qui répartit les contingents entre les différentes villes et le maire est chargé d'appliquer. Donc Mathieu Tamet nous décrit la grande vague de réquisitions à l'approche du premier hiver 1914. Le 5 août, nous avons inventorié toute la farine existant à Avallon et à Cousins chez les meuniers. Je pense que nous pourrons faire face à peu de choses près aux besoins des places fortes dont nous devons aider l'approvisionnement. Le 12 septembre, nos pauvres soldats auront besoin de tricots bientôt. Déjà, le sous-intendant d'Auxerre me demande combien les commerçants d'Avallon pourraient lui en livrer pour les troupes. Le 15 septembre, beaucoup de dépêches officielles pour le maire aujourd'hui. Réquisition de toutes les autos de 10 chevaux et au-dessus. 19 septembre, hier il fallait préparer l'achat de gilets, de tricots, de caleçons, de gants. Aujourd'hui il faut acheter de la flanelle, faire confectionner des chemises et des ceintures turbans. Pour cela il faut visiter tous les commerçants. Ce soir à 6h, au moment où je croyais ma journée à peu près finie, il a fallu recommencer à la tournée chez les rouaniers et merciers de la ville. Et le 22 septembre, aujourd'hui c'est du chocolat que demande l'intendance. Il n'y en a pas à Avallon. Et après 22 septembre, les télégrammes officiels recommencent à pleuvoir. Aujourd'hui il faut acheter et expédier toutes les chemises confectionné en flanelle de coton, etc. Ça n'arrête pas, il se démène dans tous les sens, et les réquisitions vont continuer forcément jusqu'à la fin de la guerre.
Alors il y a aussi beaucoup de remarques sur la cherté de la vie, sur la pénurie de sel qui déjà dès septembre 14 se fait sentir. C'est donc la production de pain qui est menacée. Et effectivement, on recherche, vous l'avez dit, donc des textiles, des peaux de mouton, le vin, les céréales, le fourrage pour le bétail, et puis les chevaux qui sont souvent, j'allais dire, happés par le commandement militaire pour être utilisés sur le front. Et puis il y a aussi un vrai problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre masculine pour travailler dans les champs. Et ça inquiète beaucoup à la fois la population locale et le maire d'Avallon.
Tout à fait, oui, c'est vrai que même d'ailleurs, pas seulement travailler dans les champs, mais même tenir les magasins. C'est-à-dire qu'on voit à Avallon la pénurie qui gagne, alors les carburants aussi, c'est-à-dire le charbon, le gaz, les becs de gaz seront éteints.
Les lanternes de rue qui sont
allumées. Voilà, seront éteints à partir d'une certaine heure. Et petit à petit, pour faire des économies, on interdit l'ouverture de certains magasins certains jours, et le fait que les personnes qui tenaient les magasins sont appelées au front fait que les magasins ferment progressivement. Donc il y a vraiment une austérité dans la vie qui s'installe.
Mais par exemple, le 22 janvier 1917, dans son journal, Mathieu Tamet dénonce ces terres, je le cite, abandonnées par des paresseux, mais surtout par manque de main-d'œuvre. Et là, on est en janvier 1917. Alors, bien sûr, s'organise le soutien moral aux soldats, le soutien aussi matériel, il y a beaucoup d'œuvres de bienfaisance, on vend des insignes, des petites médailles. Une anecdote peut-être sur une médaille que le clergé avait trouvée manquant de tenue.
Oui, c'était en 1915, c'était la journée de l'orphelinat des armées dans toute la France. Et en fait, la recette n'a pas été très considérable parce que le curé de Saint-Lazare a interdit à ses ouailles la plaquette en cuir qui comportait une femme et un petit enfant. Et Mathieu ne dit pas que la femme était poitrine nue, quoi.
Ce qui est aussi assez drôle, alors c'est au début décembre 1916, Marie-Laure Lasvergnas, c'est cette pétition envoyée dans les mairies par la Ligue nationale contre l'alcoolisme.
Oui, la Ligue nationale contre l'alcoolisme a envoyé une pétition dans les mairies pour lutter, comme faire se doit, contre l'alcoolisme. Et à Avallon, elle a recueilli un total de 3 signatures.
Les Avallonais n'étaient pas prêts d'arrêter de boire du vin. Alors, on sollicite aussi l'argent de tout le monde. Et par exemple, j'imagine que les petites sommes d'argent que l'on donnait à certains élèves méritants lors de prix scolaires étaient plus ou moins... pas confisqué, mais il fallait qu'on encourageait les enfants à donner leurs petits gains financiers pour la victoire.
Il y a eu des, alors que je raconte la citation, des collectes, de récompenses des enfants des écoles, mais qui n'ont pas été trop largement appliquées quand même.
Et les enfants, à un moment dans le journal de Mathieu Tamet, on comprend qu'ils sont envoyés dans les champs.
Ils sont réquisitionnés pour les récoltes, ce qui était assez courant d'une manière générale, encore plus marqué dans cette période-là. Et puis il y a aussi la collecte de l'or, et puis les grands emprunts qui, bien sûr, s'appliquent dans la région de la Vallonnais. Et tout le monde, Mathieu Tamet en tête, est mobilisé pour aller convaincre les Avalonnais de donner leur or en échange de billets.
En tout cas, on imagine que l'emploi du temps de Mathieu Tamet est une course contre la montre. Il faut à la fois satisfaire le préfet, il faut satisfaire les autorités militaires et la population locale aussi.
Oui, alors Mathieu Tamet, c'est assez étonnant parce que dans son journal, on a l'impression qu'il travaille tout le temps. Alors, il y a le travail proprement dit, c'est-à-dire qu'il est sur les dossiers. Il y a le travail dans des commissions, des réunions, des entretiens. Et puis alors, il y a un faux travail, si je puis dire, c'est-à-dire que pratiquement tous les jours, il fait sa petite promenade sur les terreaux avec les notables. Alors, il rencontre le pharmacien, le sous-préfet, le médecin, plein de gens. Et alors, si on essaye d'évaluer, j'ai essayé d'évaluer un peu combien de temps il travaille, puisqu'il a un journal qui est très précis, c'est-à-dire qu'il dit vraiment, j'ai commencé à travailler à telle heure sur tel dossier, je me suis arrêté à telle heure. Et alors, en gros, on arrive à peu près à 50 heures de travail par semaine, ce qui, pour l'époque, est à peu près normal, quoi, finalement. Et alors, l'avantage, quand même, pour Mathieu Tamet, c'est que souvent, mais c'est moins vrai pendant la Première Guerre, il est maître de son temps. Il est relativement maître de son temps. Enfin, quand même, il est extraordinairement occupé. Et tout ça à titre bénévole, et ça va l'user précocement. Il a 55 ans, juste avant la guerre. Il dit « Je suis un homme vieux ». Il fait très rond, physiquement, quand on voit les portraits, sympathique, rond, mais visiblement pas un adepte des grands efforts physiques. On ne le verrait pas dans un marathon. Et donc, incontestablement, il va s'user, je pense, un peu précocement au service de la population, comme ça, pendant la Première Guerre mondiale. C'est un avis personnel.
Et puis, il y a en février 1917, donc Mathieu Tamet le note dans son journal, une collecte de pain et de croûtes par la biscuiterie Massé qui va fabriquer des biscuits de grande conservation pour les prisonniers russes qui n'ont rien à manger. Et il y a aussi à un moment un boulanger ou un pâtissier d'Avalon qui meurt.
Et les gâteaux sont distribués à l'hôpital. Oui, ça, pour le grand plaisir des blessés.
Alors justement, Marie-Laure Lasvernias, puisque nous parlons de l'hôpital, la transition est toute trouvée. Il y a eu à Avalon, durant la Première Guerre mondiale, 3 hôpitaux.
Oui, c'est-à-dire que Avalon, comme on l'a dit jusqu'à présent, a une vie proche de la plupart des autres villes françaises. Mais il y a une particularité, c'est qu'Avalon n'est pas très loin du front. On entend très très régulièrement le canon de la bataille. C'est noté dans tout au long du journal.
Effectivement, j'ai une grand-mère qui me disait quand elle mettait le front par terre dans les champs à côté d'Avalon, au moment de la bataille de Verdun, on entendait une espèce de grondement, enfin ça vibrait. Excuse-moi, vas-y, je te laisse continuer.
Oui, mais c'est vrai. Ouais. Et il y a des exercices, ils craignent le passage des Zeppelins aussi. Enfin, il y a toutes des exercices qui amusent plus ou moins la population parce qu'on éteint les lumières dans les maisons, mais on oublie d'éteindre les réverbères qui ce jour-là marchent. Enfin bon, c'est. Mais on prend très au sérieux le fait qu'on est proche du front. Et du coup. Avalon accueille des blessés et puis aussi des réfugiés, etc. Mais ce qui est quand même particulier, c'est que Avalon est proche du front, mais pas tant que ça, parce que la plupart des blessés en fait meurent beaucoup plus près du front. Donc c'est les 3 hôpitaux d'Avalon qui ont une capacité d'à peu près plus de 300 places au total, finalement ne déplorent que peu de décès. J'avais calculé le nombre de morts. Enfin, c'est vraiment très faible par rapport au nombre de blessés accueillis.
En tout cas, en ce qui concerne les blessés, c'est qu'à Avalon, surtout, on y amène les blessés qui sont transportables. Mmh. D'ailleurs, certains blessés seront placés chez des particuliers à certains moments de la guerre. Et puis, leur nationalité varie. Il y a parfois des malgaches, il est question de malgaches, il est question aussi de soldats anglais. Donc, ces 3 hôpitaux d'Avalon, donc l'hôpital de la Croix-Rouge, lui, a posé problème un petit peu. De par l'occupation du collège public d'Avalon.
Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'hôpital de la Croix-Rouge était prêt dès pratiquement 1888. C'est-à-dire qu'il savait déjà dans quels locaux il allait pouvoir se positionner. Tout le monde était dans les starting blocks, si je puis me permettre cette expression, en prévision de la guerre de revanche contre l'Allemagne. Et donc, dès le 1er août 1914, l'hôpital de la Croix-Rouge est prêt à fonctionner, alors, malheureusement, dans les locaux du collège. Et puis, peu de temps après, il utilisera aussi l'abbaye de la Pierre-qui-Vire comme hôpital de convalescents. Alors que l'hôpital militaire, lui, ne verra le jour, ne pourra vraiment commencer à fonctionner qu'en mai 1915. C'est ce qui est quand même assez, bizarre. C'est-à-dire que la Croix-Rouge a vraiment pris les devants et prend les blessés. Alors quelquefois, d'ailleurs, la Croix-Rouge est débordée et certains blessés vont à l'hospice, à l'hôpital civil d'Avallon, voire chez des particuliers, parce qu'ils ne sont pas trop, quand même, les soins à leur prodiguer sont limités. Mais c'est vraiment une prise de position de la Croix-Rouge, et avec ensuite des rivalités entre les hôpitaux pour justifier leur existence. C'est-à-dire qu'on voit des convois de blessés arriver à la gare d'Avallon, et les représentants principalement de la Croix-Rouge et de l'hôpital militaire trier les blessés, puis en prendre chacun son contingent, parce que, évidemment, comme on est en période de pénurie, si jamais un hôpital se retrouve vide, eh bien, il n'y a pas de raison de chauffer, etc., donc il risque de fermer. Et tout le monde est très conscient de ce problème. L'hôpital militaire est menacé de fermeture en début de 1917, et en fait, c'est la Croix-Rouge qui va perdre. La Croix-Rouge va être obligée de fermer à l'été 1917. Et il ne restera que l'hôpital militaire qui, lui, fonctionnera, en plus de l'hospice civil, bien sûr. L'hôpital militaire, lui, accueillera encore des blessés, même après la fin de la guerre. Les blessés seront encore soignés, on en signale en 1919. Donc c'est vrai qu'il y a... c'est assez étonnant, cette mobilisation et c'est presque pas bataille, mais autour de ces malheureux blessés qui arrivent à la gare d'Avallon.
On se quitte quelques minutes, le temps d'une pause musicale, et puis viendra le moment de conclure. Mais nous aurons à parler quand même des fuyards, des réfugiés et des prisonniers, parce qu'il y a eu tout de même quelques prisonniers à Avallon. On y revient dans une poignée de minutes avec nos deux invités, Marie-Laure Lasvergnaz, donc l'arrière-petite-fille de Mathieu Tamet, qui fut maire d'Avallon de 1912 à 1919, et notre historien Jean-Pierre Perriot.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Et leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs.
Mélangeons demain dans un refrain nos visages métissages.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on veut. Des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bien évidemment, on ne peut pas évoquer ce soir dans Wagon Livre tous les aspects à la fois du journal, puisqu'il s'étale donc de 1912 jusqu'à 1934.
1910 même.
De 1910 jusqu'à 1934. Mmh. On rappelle que nous parlons donc de Mathieu Tamet, qui fut maire d'Avallon de 1912 à 1919. Et Marie-Laure Lasvernias, son arrière-petite-fille, est avec nous devant le micro. Alors, je le dis aux auditrices et auditeurs qui voudraient aller découvrir d'autres aspects, d'autres facettes de ce journal, que vous avez créé, Marie-Laure Lasvernias, un site entièrement dédié au journal de Mathieu Tamet via Internet, cet extraordinaire outil, www.mathieu-tamet.fr. Et je voudrais dire aussi que Marie-Laure Lasvernias a écrit un livre en 2012 paru chez Publibook qui a pour titre « Histoire de l'agence d'Avallon des enfants assistés de la Seine ». Et puis il y a « Voyage en terre pleine », récit d'une quête ordinaire séchée et 10 livres, sous la plume toujours de Marie-Laure Lasvernias, ouvrage dans lequel vous racontez cette quête en feuilletant les pages du journal de votre arrière-grand-père, Mathieu Tamet, qui revient donc sur le devant de la scène et qui est maire d'Avallon pendant la Première Guerre mondiale. Marie-Laure Lasvernias, Avallon, donc on l'a dit, est à 150 km parfois des lignes du front, on y entend le canon, mais il y a aussi des passages de troupes, il y a notamment de beaux Britanniques qui passent dans Avallon.
Oui, Avallon voit passer les civils allant se mettre à l'abri, les soldats dans un sens et dans l'autre, les trains de blessés, les renforts alliés montant au front, et notamment, alors là, les Avallonaises ont vraiment eu de quoi se remplir les yeux en 1917, lorsque les convois anglais arrivent. Mathieu Tamet nous dit « Une compagnie militaire anglaise de camions automobiles, 93 voitures et plus de 300 hommes, dont 4 ou 5 officiers. Nos alliés ont eu un grand succès auprès du beau sexe avallonnais. Aussi ont-ils chanté et fait un peu de musique sur les terreaux Vauban. Les Hauts-de-Berre et les grands terreaux et le centre de la ville ont été très animés jusqu'à 10h du soir. Tout le monde a admiré la bonne tenue des Anglais de passage entre villes, leur souplesse, leur belle attitude. Dès leur arrivée, ils ont fait le thé et déjeuner, puis ils ont procédé à leur toilette, lavage des pieds, des bras, du visage, du cou. Ensuite, ils font de la musique, ils chantent, etc. Et il y a de nouveau un autre passage un peu plus tard, et vraiment, les Anglais sont toujours la coqueluche des dames et des jeunes filles et très entourés. Le soir de 3h à 10h, on se serait cru en fait sur les Capucins où était leur voiture automobile.
Alors il y a eu, vous l'avez dit aussi précédemment dans l'émission, mais à Avallon comme dans d'autres villes françaises, la menace parfois peut venir du ciel. Et il y a effectivement à Avallon notamment des alertes, des exercices pour prévenir la population contre une éventuelle attaque de Zeppelin.
Oui, et d'ailleurs, en 1917, il y aura des aviateurs allemands qui passeront au-dessus de Dijon, donc ce qui confirme la réalité de ce risque. Mais donc, les Avallonnais s'entraînent régulièrement à éteindre les lumières et à se préparer au passage des Zeppelins. Alors, il y a eu également beaucoup de passages de réfugiés et d'accueil de réfugiés avec des appels à la solidarité de la population. À certains moments, notamment en 1917, il y avait 2-3 000 réfugiés qui arrivaient. Alors certains repartaient, certains étaient en transit, notamment à un moment des mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui vont au Creusot et qui sont accueillis à Avallon. Ils prennent leur premier vrai repas chaud, paraît-il. Bon, ça c'est Mathieu Tamet qui le dit, mais il y a constamment la population d'Avallon qui est de 5-6 000 personnes.
Oui, oui, Avallon n'est pas très peuplée au début, juste avant la Première Guerre mondiale, 6 000 habitants. Hein. Donc 2 ou 3 000 réfugiés, ça fait un tiers de la population, c'est considérable.
Alors qu'une partie est répartie dans les villages autour, mais quand même, c'est la population d'Avallon est vraiment embarquée dans cette solidarité avec les pauvres gens de passage. Quoi.
Et on apprend aussi que dès la fin de 1914, le secteur d'Avallon est pressenti comme zone d'accueil de prisonniers de guerre. Alors ça aussi, c'est un aspect intéressant dans le journal intime de Mathieu Tamet, votre ancêtre.
Oui, alors on en parle dès l'année 1914. En fait, des prisonniers vont être accueillis, si on peut dire, à Noyères, à Châtel-Gérard, à Vézelay. Et le vrai premier camp dans la région vallonnaise sera aux Châtelaines, mais en juin 1917. Et je crois qu'il accueillera une vingtaine de prisonniers, ce qui est quand même faible. Dans les autres camps, il y a 50 ou 100 prisonniers. Là, aux Châtelaines, c'est un petit camp, mais ça mobilise encore ce pauvre Mathieu Tamet qui est obligé d'aller faire les courses pour les prisonniers. Il dit le 6 juin 1917, j'ai dû employer une partie de mon temps à acheter des vivres pour les Boches et leurs gardiens. Et puis après, il va visiter toujours en juin le camp et il constate que vraiment il n'est pas très bien gardé, quoi. Les Boches, comme il dit, pourraient très bien prendre la poudre d'escampette, et il déplore, bien sûr, en tant que militaire, enfin ex-militaire, ce relâchement.
Alors, je rappelle donc le site www.mathieu-tamet.fr où l'on retrouve un très grand nombre de documents, y compris iconographiques. Et puis arrive le 11 novembre 1918, dont Mathieu Tamet, bien évidemment, rend compte dans son journal.
Oui, il note 11 novembre 1918, journée mémorable, en titre. Journée mémorable, armistice. Alors en fait, il est en tournée. Il est en tournée pour les enfants assistés. Il est vers Carré-les-Tombes. Et il note, à 2h du soir, j'apprends à Carré par M. Rostin, maire, que l'armistice est signé. Et la suite est soulignée, que les Boches ont capitulé. À 4h30, dans toutes les villes et villages de France, les cloches sonneront à toute volée pour annoncer la victoire définitive et complète. Les plénipotentiaires allemands ont signé l'armistice ce matin à 5h. Vive la France! Vive ses vaillants alliés! Je me hâte de rentrer et à 5h, je suis ici. Sans me changer, je me rends aussitôt à l'hôtel de ville. Plus personne. Je trouve Brillant, un de ses adjoints, dans la rue, avec la retraite militaire organisée avec des trompettes de l'artillerie et des tambours de la ville. Derrière suit une foule immense, soldats et civils, hommes et femmes, enfants, bras dessus, bras dessous. C'est une joie délirante, le bonheur d'être débarrassé de cette horrible guerre et d'avoir aplati l'ennemi tant exécré, le barbare qui a mis à feu et à sang une partie de la France, la Belgique et la Serbie. Cet ennemi est vaincu et obligé d'accepter nos conditions. Et maintenant, j'attends de connaître les conditions de cet armistice, je ne les trouverai jamais assez sévères pour ces bandits. Et le 12 novembre, le lendemain, à Avallon, la journée a été assez mouvementée. Les pétards ont retenti toute la journée à la joie des gosses. Ce soir, les monuments publics ont été illuminés. Toute la ville est restée pavoisée.
Merci Marie-Laure Lasvania. Je rappelle donc le titre de votre livre « Être maire en 1914 », donc des extraits du journal intime de Mathieu Tamet, maire d'Avallon à la veille de la Première Guerre mondiale, avec une introduction donc par vous-même et une présentation par Jean-Pierre Perriot, à qui je donne le mot de la fin.
Oui, eh bien, donc, Mathieu Tamet a été maire d'Avallon un petit peu contre son gré. Il s'est investi à fond dans cette Première Guerre mondiale. Il arrive certainement relativement usé physiquement à la fin de la guerre. Et alors, à la fin de la guerre, il y a des élections municipales. Il est candidat, mais sans enthousiasme malgré tout. Et avant qu'il ne soit réélu, il dit « oui, je veux bien être réélu, mais il faudrait tout de même qu'on pense à donner quelque chose au point de vue financier, qui est une subvention, qui est une indemnité pour le maire. » Et comme les élus municipaux refusent, eh bien, il laisse tomber et il abandonne la politique. Alors il abandonne la politique, juste un mot, Mathieu Tamet, donc il a été vraiment au service de la collectivité de façon très très large. Il avait bien sûr une option politique, il était radical socialiste, c'est-à-dire la gauche modérée de l'époque. Il s'est heurté au début à la grande famille des notables avallonnais républicains, les Flandins. C'était l'époque 1914-1920 de la montée de Pierre-Étienne Flandin. Finalement, ils se sont retrouvés. Mathieu Tamet a donné un coup de main à Pierre-Étienne Flandin pour le journal que celui-ci avait sur la Vallonnais. Et ils ont travaillé ensemble. C'était pas tout à fait une coïncidence, parce que Pierre-Étienne Flandin, c'était la droite, mais la droite modérée. Et une droite modérée qui cherchait à gouverner avec la gauche modérée. Donc, pendant un certain temps, eh bien, ma foi, ils ont travaillé ensemble. Mais Mathieu Tamet n'a pas cherché à avoir une carrière politique. Ses objectifs étaient en fait plus limités, plus concrets, plus pratiques.
Marie-Laure Lasvernias, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse d'évoquer votre arrière-grand-père et la Grande Guerre à travers le journal de celui qui fut maire d'Avallon. Ce ne fut quand même pas pour lui une période de grand repos. Hein. C'est évident. Et donc, on retrouve votre livre. Il y en a plusieurs, mais je rappelle « Être maire en 1914 » avec une présentation de Jean-Pierre Perriot, qui était avec nous ce soir devant le micro, et puis une introduction par vous-même, Marie-Laure Lasmanias. On peut le trouver et le commander via le site mathieutamet.fr.
Oui, on peut.
On peut le trouver à la librairie L'Autre Monde à Avallon. Voilà.
Et le commander.
Et on peut le commander, bien sûr, aussi sur le site, tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir évoqué cette grande guerre en pays avallonnais et à Avallon à travers les fonctions de maire de Mathieu Tamet. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis je donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs mercredi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Au revoir.